Nous allons lire donc Acte 4, versets 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, on a commencé cette étude des Actes, on poursuit. Et ici, Pierre et Jean ont été emprisonnés et on leur a fait des menaces. On leur a défendu de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Et là, on les prend juste à la sortie de prison. Ils viennent d'être relâchés après qu'on leur ait fait ces menaces. Et la première chose qu'ils font, verset 23, ils vont aller d'abord vers les leurs et ils vont raconter ce qu'ils viennent de vivre en prison et ce que les Juifs leur ont dit. Et il faut tout remettre dans le contexte. Donc, quelques jours auparavant, on ne sait pas combien, mais quelques jours auparavant, il y a eu la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, il a rempli le cœur des disciples. Et à ce moment-là, Pierre, entre autres, poussé par le Saint-Esprit, s'est mis à prêcher l'Évangile. Il a dit aux Juifs, « Vous avez crucifié Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé, il est le Messie, etc. » Donc, il prêche. Ensuite, quelques jours plus tard, il arrive avec Jean à la Porte Belle. Il y a ce boiteux. Il opère une guérison miraculeuse. À ce moment-là, la foule se rassemble. Pierre, de nouveau, prêche l'Évangile. Il invite à la repentance et à la conversion à Dieu. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, c'est la première réelle opposition. Comme il dénonçait les péchés des chefs religieux juifs qui avaient rejeté Jésus, qui avaient même permis qu'il soit crucifié, et comme il est en train d'annoncer ce beau message de l'Évangile, soudain, il y a comme une coalition qui se fait, qui s'opère contre eux. « Vous ne parlerez plus, vous n'enseignerez plus au nom de Jésus-Christ », ils leur disent. Et c'était pas juste une petite réprimande comme ça, vite fait, hein. Il faut se rendre compte un petit peu de la pression certainement qu'on leur a mise. Parfois, vous êtes en train de parler, ça nous arrive, sortir dans la rue, parler de Jésus-Christ, donner un traité. Quand vous faites cela, c'est possible parfois qu'il y a quelqu'un qui a un peu des forces de l'ordre quoi, qui vient vous voir. Certains vous laissent tranquille, d'autres ont un peu plus de zèle, on va dire, hein. Il y a quelques années, ça nous est arrivé. On était en train de distribuer dans la rue à Lille et il y a un CRS qui s'est approché avec ses collègues et il leur a dit « Vous n'avez pas le droit de distribuer cette... » Il nous a dit « Vous n'avez pas le droit de distribuer ces tracts ici. » Et le pasteur avec qui j'étais a dit « Mais ça fait des années qu'on distribue les tracts ici, il n'y a jamais eu aucun problème. Et je ne crois pas savoir qu'il y ait une interdiction. » Et finalement, bon ben, voilà, il est parti et puis c'est tout, c'était fini. Mais comprenez ici que c'est pas juste un chef des Juifs qui est venu dire à Pierre « Il faut que tu arrêtes de parler au nom de Jésus-Christ ». C'est pas ce qui s'est passé. On lit au début du chapitre 4, que survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens qui étaient mécontents. Et puis verset 3, on lit « Ils mirent la main sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir ». Donc ça c'est une première chose, on les prend... Et on les jette en prison pour la nuit. Et puis au petit matin, eh bien, ils vont passer devant un tribunal, un véritable tribunal. La scène se passe donc au Sanhédrin. Sanhédrin, c'est l'assemblée législative des Juifs. C'est aussi le tribunal suprême. On dit qu'il y avait 71 sages qui interprétaient la loi, qui expliquaient la loi. Et notre texte nous dit qu'il y avait les chefs du peuple, les anciens, les scribes, Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Donc quand vous faites la somme de tous ces gens-là, admettons qu'il y avait aussi ces 71 personnes, il y avait bien une centaine de personnes qui étaient là, et ils font placer Pierre et Jean au milieu d'eux. Et c'était pas des simples personnes, c'était tous les chefs religieux qui étaient là, les chefs religieux pour lesquels les Juifs avaient un profond respect. Hein, c'était le souverain sacrificateur, hein. Un petit peu comme la voix de Dieu sur terre, hein, pour les Juifs. Pierre et Jean, eux, petits pêcheurs de Galilée, hommes du peuple, sans instruction, soudain devaient se sentir quand même un peu petits. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous dit la parole, ils furent remplis du Saint-Esprit, et alors, eh bien, ils ont reproclamé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, la Bible ne nous dit pas les menaces que tous ces chefs leur firent et la manière aussi par laquelle ils ont exercé une pression sur eux. Mais on peut imaginer que c'était sévère. C'était vraiment, ils ont mis le paquet pour qu'ils arrêtent, pour essayer de saper leur fougue et leur zèle. Et si l'homme, quand il est rempli du Saint-Esprit, dans le feu de l'action, là, voilà, par la grâce et par la puissance de Dieu, il parle, l'homme est toujours un homme, il a quand même la faiblesse, nous sommes faibles. Imaginez une scène irréelle. Donc je dis irréelle, certainement notre frère avocat va voir des irrégularités en pagaille, mais bref, imaginez. Vous avez l'habitude de parler de Jésus-Christ dans la rue, d'aller témoigner de votre foi, et à ce moment-là, la police arrive, dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous prend, vous met dans le fourgon, vous embarque, vous met en prison pour la nuit, et puis le lendemain matin, passez devant un jugement expéditif, rapide, pour délit du trouble de l'ordre public. Le juge vous lit un article, je vous en lis un, probablement pas le bon, article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police du maire, fait référence à l'ordre ainsi qu'à la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Donc vous avez perturbé la tranquillité publique à plusieurs reprises en provoquant des attroupements sur la voie publique. En conséquence de quoi, le juge ne peut pas vous battre de 40 coups moins 1, hein, comme les Juifs le faisaient, mais il vous donne 6 mois de prison avec sursis, avec peut-être une amende. Et donc sur une période de 5 ans, si vous recommencez, eh ben vous allez d'abord 6 mois en prison, et puis vous serez rejugé, vous aurez la peine en plus. Vous sortez du tribunal, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au centre, là, et vous recommencez à prêcher? Ben, on réfléchit, hein. On réfléchit. Et là, vous avez probablement un peu le sentiment de Pierre et Jean. Quand ils sont sortis de ce tribunal avec tous ces chefs juifs qui étaient autour d'eux et qui leur faisaient des menaces, hein, et plus tard, on verra qu'ils auront envie de les tuer. Hein, ils vont aller, ça va aller plus loin. Donc là, peut-être, ils ont fait des menaces aussi de cet ordre-là. Et là, eh bien, quand on lit la prière qui va être faite par les disciples, on peut voir leur faiblesse et leur besoin de Dieu. Regardez verset 29, ils disent, « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et j'aimerais parler ici ce matin de notre faiblesse naturelle qui est la nôtre, hein, et qui nous invite à prier, à demander à Dieu. Devant la grande tâche qui était la leur, celle d'élever la bannière de Jésus-Christ, hein, suite à cette première arrestation, eh bien, ils se sentaient probablement faibles. Ils ne sont pas retournés immédiatement pour prêcher au temple, mais d'abord, eh bien, ils sont allés, voilà, à un lieu où ils étaient en sécurité, au milieu de leurs frères et sœurs. Ils ont raconté, ils ont vidé leur cœur, et puis après, ils ont prié. Ils ont prié. Quelle est finalement la prière de ces premiers chrétiens dans leur première grande épreuve? Ils disent simplement, « Seigneur, rends-nous capables d'accomplir ce pour quoi tu nous appelles. » Rends-nous capables d'accomplir ta volonté. Et c'est ici la prière qu'il faut qu'on élève dans toutes nos faiblesses. Comment ont-ils fait cette prière? De quelle manière ils l'ont fait? J'ai lu un commentateur qui présume qu'une personne a élevé la voix, a dit une phrase, et puis les autres ont répété la même phrase, et ainsi de suite, pour prier tous ensemble. Et j'imagine, il le tire de ces mots, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dire. En fait, on ne sait pas exactement, pratiquement, de manière pratique, comment ça s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient ensemble, et qu'ils ont tous prié ensemble cette même prière, ils étaient tous d'accord, et ça s'est élevé comme un parfum agréable au Seigneur. Comment commence leur prière? Il dit, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Donc le début de leur prière, ça commence avec une description du Dieu créateur. Ses disciples ne sont pas en train de s'adresser au petit Jésus, à un homme, à une divinité, une petite divinité, à un Dieu faible. Mais voilà, il s'adresse au Créateur, le Créateur, l'unique Créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait toutes choses, le grand Dieu du ciel. On l'a vu tout à l'heure, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et il est bon de se rappeler, quand on se sent faible devant quelque chose, que nous avons un Dieu qui est le Dieu Créateur. Il a créé toutes choses. Il a créé le ciel, il a créé les étoiles, il a créé la terre, il a créé les plantes, il a créé la mer et tout ce qu'elle renferme, il a créé tous les êtres vivants, il a créé tous les hommes et les esprits, les hommes et les esprits d'hommes, ainsi que toutes les lois physiques ou biologiques. Donc ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et en priant ça, eh bien, ça invite à la foi, à la confiance. Vous avez un grand Dieu, nous avons un grand Dieu. Ils le disent. Voilà, on se tourne vers lui, le Créateur. Et puis, versets 25-26, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et là on voit, Pierre connaît sa Bible, l'Ancien Testament, il le connaît, il se souvient du psaume 2 et il en fait une application à ce qu'il venait de vivre. Donc le psaume 2, c'est un psaume messianique, un psaume qui est prophétique. Et ça nous parle donc de Jésus-Christ. Et on voit que les disciples là vont chercher un encouragement. Et où ils vont trouver cet encouragement dans les Écritures? Bien, c'est dans ce psaume. Comment vont-ils surmonter cette haine? Qu'est-ce qui va les aider à avoir confiance? Psaume 2. Regardez le psaume 2. Il est dit... Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes. Qui dit ça ici? Ce sont les hommes. Les hommes qui disent, brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes. Donc, de l'Éternel, de son Fils. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et ce psaume, ben ça nous parle d'une coalition contre Dieu. Les hommes, les nations, les rois, les souverains, tous ceux qui règnent, qui s'unissent contre Dieu, ils veulent s'affranchir de Dieu. Et Dieu rit. Dieu rit. Pourquoi? Parce qu'il règne et qu'il va établir son Fils pour régner sur la terre. Il dit avec une verge de fer. Ce jour-là, les princes, les rois et tous ceux qui règnent devront trembler. Ils auront tout intérêt à trembler. Donc cette période, c'est la période du millénium. Quand on lit les prophéties, quand on lit le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé de la période du millénium. Donc c'est une période de temps futur où Jésus-Christ va revenir et va régner sur la terre. Mais c'est intéressant, hein? Les psaumes, ça date de bien avant Jésus-Christ. Et déjà, ça nous parle du Fils qui allait venir. Et en priant et en citant ce psaume dans leur prière, en fait, ils ont placé leur foi dans la vérité des Écritures. Dieu règne, c'est écrit. Dieu n'a pas changé. Dieu domine sur les rois, il domine sur ses chefs juifs. Il est celui qui est au-dessus, le Seigneur se moque d'eux. La victoire appartient à l'Éternel. Et on voit ici, encore une fois, l'importance d'avoir encore sa foi dans les Écritures. De venir chercher les paroles qui nous permettent de dire, mais non, ayons confiance, soyons dans la paix. Le Seigneur a dit ceci ou il a dit cela. Qu'importe si les Juifs et les Romains se sont ligués pour faire crucifier Christ, qu'importe s'ils s'opposent au message de l'Évangile, Dieu règne, il règne toujours. Versets 27 et 28, Actes. Acte 4, 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Là encore, on peut puiser un encouragement. Il dit, tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et l'arrestation de Jésus-Christ. La crucifixion de Jésus-Christ, c'était pas un coup du sort, un hasard parce que voilà un gourou d'une secte avait fait un peu plus de bruit que les autres, alors on avait voulu y mettre fin. Non, c'était arrêté d'avance. Tout était préparé déjà bien à l'avance. Et si vous lisez les prophéties, si vous lisez tous les prophètes, eh bien vous voyez que tout était écrit. Dieu avait déjà écrit l'histoire. Quand on lit ces prophéties et qu'on voit qu'elles datent de plusieurs siècles avant Jésus-Christ et qu'on authentifie les textes comme datant réellement d'avant Jésus-Christ, on ne peut pas nier que Dieu a parlé, qu'il a préparé et il a préparé plein d'autres choses et il est en train de les accomplir. Jésus-Christ devait venir et il devait venir pour mourir pour les péchés des hommes afin de faire l'expiation de nos péchés, afin qu'on puisse être pardonné et qu'on puisse avoir vraiment le pardon, avoir la vie éternelle. Mais maintenant, le plan de Dieu pour eux, premiers chrétiens, le plan de Dieu, eh bien, c'est de répandre ce message. Dieu veut que les chrétiens parlent, qu'ils se manifestent comme le peuple de Dieu, comme les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, malgré l'opposition, malgré les persécutions, malgré qu'on essaye de les faire taire. Dieu veut qu'ils brillent. Il veut qu'ils brillent comme des flambeaux, d'abord à Jérusalem, puis dans toute la Judée, puis dans la Galilée, puis dans la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que le Seigneur a dit. Et là, quand on voit ce plan, aller répandre l'Évangile partout, mais qui est suffisant pour ça? Qui est suffisant pour ces choses? Et certainement les disciples, eh bien, après cette première arrestation et ces menaces, devaient se sentir petits, faibles. Ils voyaient l'œuvre de Dieu qui était grande, qui était vaste. Et eux qui étaient sans force, qui étaient des simples hommes, des pécheurs. Pierre devait se souvenir aussi de ces paroles qui peut-être résonnaient encore dans son peuple, dans son cœur, pardon, et qui disaient « Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. » Oui, oui, ben là, c'est pas facile d'être ses témoins. Alors, il a prié, ils ont prié, versets 29 et 30. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et donc, Dieu a voulu appuyer le témoignage des apôtres, il ne faut pas l'oublier, par des miracles, des guérisons, des prodiges, des choses extraordinaires, en sorte que personne ne puisse dire non, n'importe quoi, ils ne viennent pas de Dieu. Ils étaient obligés de reconnaître. Regardez même les Juifs, ils étaient avec dans leur tribunal, là, ils ont fait sortir Pierre et Jean du Sanhédrin, et puis ils ont commencé à parler ensemble, et ils ont dit, on ne peut pas nier qu'ils ont accompli un miracle. Même eux, ils le disaient, c'était évident, mais dans leur cœur, ils étaient endurcis. Et Dieu, eh bien, a permis que les apôtres fassent toutes sortes de guérisons, de miracles, de prodiges, pour que cela authentifie le message. Mais quand on se sent faible devant quelque chose que l'on doit accomplir, que Dieu attend de nous, quand on se sent incapable, eh bien, on a toujours la prière. On peut demander, demander à Dieu. Et il faut qu'on garde dans nos cœurs que Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Est-ce que Dieu vous dit quelque chose? Il vous ordonne quelque chose? Dieu vous donne aussi les moyens d'accomplir ce qu'il vous ordonne. Et il y a bien des domaines où on se sent vraiment faible. Et il y a un décalage entre ce que Dieu veut que nous soyons et puis ce que nous voyons parfois dans notre propre vie, dans notre marche quotidienne. On se dit, oula, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il un décalage? Comment vais-je y arriver? Je suis faible. Il y a plein de domaines où on peut voir notre faiblesse. On voit notre faiblesse dans la famille. On la voit dans le couple, quand il y a le caractère qui ressort. Les traits sont comme amplifiés dans la proximité. Voilà. Proximité. Et là, on ne peut plus cacher. On est tel qu'on est réellement. Et parfois, certaines choses deviennent vraiment difficiles. Certains sacrifices, certains renoncements. Comment vais-je y arriver? Comment vais-je être un bon époux? Comment vais-je être une épouse qu'il faut comme il faut? Avec les enfants aussi, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, on mesure encore la faiblesse. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Comment mieux faire? La constance aussi, c'est un grand défi la constance. Comment être constant dans l'éducation que l'on donne à nos petits? Dans l'exemple que l'on donne, comment être constant? Ça demande un investissement qui semble sans limite. C'est pas comme si, on peut prendre des vacances. Non, on ne prend pas de vacances, il n'y a pas de vacances. Et parfois, on est fatigué et voilà, il nous manque de l'énergie et on peut ressentir sa faiblesse. C'est encore dans la solitude que Dieu peut permettre dans nos vies. On sent sa faiblesse parce que les tentations, certaines tentations sont fortes. Parfois, on veut en finir rapidement, terminer avec cette solitude. Ça peut même finir par occuper nos pensées tellement qu'on s'en rend malade. On en est malade. Est-ce que je vais passer le cap? Ou bien c'est le fait de ne pas ou de ne plus avoir un appui. On n'a plus une épaule sur laquelle on peut se reposer. On n'a plus une oreille dans laquelle on peut se confier. On n'a plus une âme, un vis-à-vis avec qui partager. Et là, on peut se sentir faible. C'est encore dans notre marche avec Jésus-Christ où on se sent faible. Faiblesse dans la persévérance à prier. Parfois, on est encouragé parce qu'on entend un message, une exhortation, hop, allez, on prie, et puis une semaine passe, et puis de nouveau, notre piété s'étiole. On a soif de lire la Bible, et puis quelque temps après, on s'aperçoit qu'on a laissé le plan de lecture qu'on avait commencé. Comment vais-je y arriver? C'est une réalité encore dans le témoignage. Nous aussi, on peut entendre cette parole. Vous serez mes témoins. C'était pas que pour eux. C'est pour nous aussi. Vous serez mes témoins. Nous aussi, on a reçu cette parole. Elle est pour nous. Mais quelle est la réalité de notre témoignage dans la vie quotidienne? Et il y a l'aspect d'abord de partager sa foi dans le sens d'ouvrir sa bouche et de se prononcer pour Jésus-Christ et de dire « Mais Jésus-Christ est mort pour vous ». Ça déjà, ça peut nous sembler une montagne, parce que ben, on se sent timide, on n'ose pas, qu'est-ce qu'on va dire? Et puis, il y a aussi l'aspect du témoignage dans la vie quotidienne, c'est-à-dire, voilà, au jour le jour et chaque jour, dans nos réactions, dans nos paroles, dans nos attitudes. Et on a besoin des deux, à la fois ouvrir la bouche et en même temps être voilà, d'un bon témoignage cohérent dans la durée. Qui est suffisant pour ces choses? Là encore, la faiblesse. Mais Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Ce qu'il faut, c'est se mettre dans une position de recevoir, pour le recevoir. C'est-à-dire dans une attente de foi, d'espérance, dans l'attente. Seigneur, je l'espère de toi. Regardez le psaume 68, verset 29. Il dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Et j'aime ce verset parce que il y a à la fois cette volonté divine, Dieu veut que nous soyons forts. Il veut que nous soyons puissants. Et puis il y a la réalité humaine qui s'exprime dans l'autre partie. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et c'est là une prière qui manifeste la faiblesse. Oh Seigneur, secours-moi, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Et regardez ce que dit la fin du psaume, verset 36. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et s'il attend quelque chose de vous, vous pouvez être assuré, il va vous donner ce qui vous manque. Mais j'aimerais revenir sur le verset 29. Regardez de nouveau le verset 29. Alors, je suis pas hébraïsant, j'ai pas fait d'hébreu du tout. Mais ce que j'ai lu, c'est que l'hébreu est une langue difficile et que quand je lis les différentes traductions, eh bien, je me dis, parfois, c'est un peu difficile, quoi. La nuance est difficile à trouver, dans les termes hébreux. Et donc, les traductions peuvent varier. Ça reste quand même toujours dans la même, ça veut toujours dire pratiquement la même chose, mais ça varie, il y a des nuances. Par exemple, donc ici, on a lu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Darby, lui, dit, ton Dieu a commandé ta force. Établis ta force, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu a commandé ta force. Je vous lis une autre version, Chouraki. Intéressant, lui. Chouraki dit, ton Elohim a ordonné ton énergie. Ton Elohim a ordonné ton énergie. Et puis, une autre traduction qui dit, ton Dieu a décrété ta force. Encore, petite nuance, on avance, Et j'aimerais prendre un peu ce sens qui se dégage de ces dernières traductions. Ce que j'aimerais dire, c'est que la force, la puissance, l'énergie, elles nous sont acquises. Elles nous sont déjà acquises. Il nous les a données, il les a ordonnées, il les a commandées pour nous. Il les a décrétées. Pourquoi ? Parce que nous les avons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons ça. Nous avons tout. En Jésus-Christ, tout pleinement. Dieu donne ce qu'il ordonne. Mais ce qu'il faut, c'est la foi qui l'attend, la foi qui s'en empare par la prière, la foi qui dit « Seigneur, donne, je repose sur toi, j'espère de toi, Seigneur, donne !» Et Dieu donne, il veut donner. David va prier « Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Les disciples vont prier, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Autrement dit, Seigneur, rends-nous capables d'accomplir ta volonté, d'accomplir ce que tu nous demandes. C'est Dieu qui peut nous rendre capables de faire, d'être ce que nous devrions. Et il le fait en réponse à la prière, en priant. En l'attendant, finalement, c'est la manifestation de notre foi. Quand on le demande, on exprime la foi. et on le reçoit de Dieu. Dieu peut nous exaucer. Et j'aimerais dire que toutes les prières sont pas forcément les mêmes. Certaines trouvent un exaucement qui est immédiat, mais d'autres sont longues à voir un réel changement. Mais c'est que l'objet de la prière est pas forcément le même, parce que nos faiblesses aussi sont pas les mêmes. Vous avez par exemple d'abord la faiblesse qui est due au péché. Si vous priez que Dieu vous sanctifie pour quelque chose, qu'il vous délivre d'un péché qui est récurrent, qui revient, il ne faut pas s'attendre à un changement définitif et immédiat, ou je dirais immédiat et définitif. Là, ça y est, terminé, ça n'apparaîtra plus. Mais la raison du retard de l'exaucement complet, définitif, elle n'est pas due à Dieu, mais c'est dû à nous-mêmes. Si on a quelque chose qui a pris racine en nous, qui fait partie de nous, une chose dans laquelle on est tombé et on est retombé, et vraiment ça a pris racine en nous, c'est pas juste une petite chute exceptionnelle, alors ben ça prend du temps. Ça prend du temps pour extirper les racines. Dieu entend, Dieu est en train de nous changer, et on peut dire que Dieu a répondu dès l'instant où nous avons fait la prière. Mais lorsque l'on touche un trait de notre nature, lorsqu'on demande que Dieu change une faiblesse de notre âme qui s'est traduite par de nombreuses chutes, eh bien ça doit être renouvelé. Et renouvelé. Il va le faire pour l'heure à venir. Il va le faire pour la journée à venir. Mais demain, il faudra recommencer. Et recommencer encore. Et encore. Avec constance. Le péché, c'est semblable à une pente sur laquelle on est en train de glisser. Et plus on pratique le péché, eh bien plus on glisse, et plus on glisse bas. Et vous savez, c'est toujours plus dur de monter que de descendre. Pour descendre, c'est facile. On se laisse glisser, on se laisse aller. Par contre, pour monter, ben, y a un effort, y a une lutte, y a un combat. Pierre dit, dans son épître, il dit « Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Très beau verset. « Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché comme Jésus-Christ a souffert dans la chair. » Et il ne nous parle pas d'un état de perfection où nous serions sans péché, ici sur terre, mais plutôt d'un état dans lequel nous ne céderons plus sans cesse à nos péchés. Nous ne céderons plus à toutes les convoitises. Un état finalement de stabilité dans la marche, un affermissement. Nous pouvons tomber, nous tombons, mais c'est plus sans cesse et sans cesse et sans cesse et sans cesse. Ça devient de moins en moins fréquent. Et dans la lutte contre nos faiblesses dues au péché, eh bien, on va voir d'abord les prémices, petit à petit. Et puis, par le renouvellement de notre confiance dans le Seigneur, par la persévérance à espérer en lui, à compter sur son secours, ben finalement, on arrivera à un affranchissement. Ça va tomber comme une branche morte. Voilà. Vous savez, il y a les arbres, vous voyez des branches mortes là, il y a des feuilles partout sauf là. Ben la branche, elle va rester 6 mois, 1 an, 2 ans, mais finalement, elle tombe. Et puis, c'est terminé. On vient de voir justement ça dans l'étude biblique cette semaine. Donc chez Jacqueline, le jeudi soir, il y a ce verset qui dit, c'est une prière de Paul qui dit qu'il priait pour les Éphésiens qui soient puissamment fortifiés par l'Esprit dans l'homme intérieur. Et c'est de ça dont on a besoin. Que Dieu, Seigneur, qu'on fasse cette prière pour les uns et les autres et pour nous-mêmes. Seigneur, fortifie-nous puissamment dans l'homme intérieur, que vraiment on tienne bon. Mais si notre faiblesse est due à... Là, je parle d'une autre faiblesse, est due plutôt à un manque de force dans la journée, un manque de courage, un manque de sagesse, un manque d'audace, un manque de volonté. À ce moment-là, eh bien, on peut prier et Dieu va nous donner dans l'instant. Il va nous donner tout de suite. Et là, on est plutôt dans la prière qui concerne ici donc les apôtres et les disciples. Quand il s'agit d'une fortification à l'intérieur pour accomplir quelque chose qui est là, qui est devant nous, un secours immédiat, Dieu exauce. Dieu répond immédiatement. La prière, c'est ce qui nous ouvre les ressources de Dieu. Et on voit que c'était le cas ici. Les disciples ont prié. Seigneur, finalement, qu'est-ce que c'était ? Seigneur, tu veux que nous témoignions. Tu viens de nous le dire. Mais vois leurs menaces. On s'oppose à nous. On se sent faible. Seigneur, donne-nous ce que tu nous ordonnes de faire. Besoin immédiat, réponse immédiate. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont demandé de l'assurance, qu'ont-ils reçu ? De l'assurance. Demandez, et vous recevrez. Donc, est-ce que le Père donnera une pierre à son Fils s'il lui demande du pain ? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Et quand on a besoin que Dieu remplisse, voilà, quelque chose pour notre vie quotidienne, pour l'instant, on demande et on reçoit. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il dit, voilà, on demande simplement le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous est donné. C'est la puissance de Dieu qui nous est donnée pour venir combler nos faiblesses. C'est par lui. Paul a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et quand il disait ça, eh bien, il disait bien sûr cela en parlant du Saint-Esprit, il disait, mais voilà, par Jésus-Christ, quand j'ai un besoin, je lui demande, il me remplit, et je peux faire ce qu'il me demande. Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Et j'aimerais terminer avec un verset que Fanette nous a partagé, qu'elle avait reçu elle-même de Myriam, je crois. Donc, ce verset dit, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que tu accomplis, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Éternel, tu nous donnes la paix parce que c'est toi qui fais les choses. Donc, se reposer sur Dieu et dire, Seigneur, viens faire ce que je n'arrive pas à faire. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu nous exaucera. On va s'incliner dans la prière.